Chapitre 4. Lâchant la bonde à sa fureur, Richard fondit sur les Shuntooks. Sa lame décrivit un arc de cercle, faisant voler dans les airs un crâne rasé dont les yeux peints s'écarquillèrent. Dans le même mouvement, l'épée de vérité continua à fendre l'air, sifflant comme la lanière d'un fouet, et alla trancher l'épaule d'un autre demi-humain en la séparant quasiment de son tronc. Sans perdre une seconde, le sorcier se débarrassa ensuite d'un agresseur qui menaçait son flanc, un bon coup de pied, et le type maigrichon alla valser dans le décor. Alors que Richard éclaircissait les rangs des Shuntooks, Callan aperçut le soldat qui gisait sur le sol, entouré d'une meute prête à se repaître de sa chair. Se fichant de l'attaque en cours, une bonne partie des créatures continuaient à s'acharner sur leur proie. Si certaines jetaient quand même quelques coups d'œil inquiets à Richard et à ses compagnons, la plupart, ivres de sang, festoyaient au mépris du danger. Malgré la masse de demi-humains qui se pressaient autour de lui, le soldat avait toujours son épée dans la main droite et un couteau dans la gauche. Flanquant des coups de pied pour repousser ses adversaires, il embrochait avec son épée ceux qui tentaient de le clouer au sol et enfonçait son couteau dans les côtes de ceux qui essayaient de le mordre. Il criait autant de fureur que de douleur. Partout où sa cuirasse ne la protégeait pas, sa chair n'était plus qu'une bouillie sanglante, mais il était encore bien vivant et plein de combativité. En digne membre de la première phalange, il s'était battu férocement, comme en témoignaient les cadavres de Shuntook qui jonchaient le sol autour de lui. Pour parvenir à l'arrêter puis à le jeter au sol, les demi-humains avaient payé un lourd tribut. Parmi les victimes de ce héros, certaines, mortellement touchées, n'avaient pas encore fini d'agoniser, mais c'était tout comme. D'autres, grièvement blessées, se tordaient de douleur, le sang qui se déversait de leurs entrailles faisant rougir l'eau du petit ruisseau qui coulait à trois pas de là. Quelques demi-humains gémissaient. À l'inverse de presque tous les blessés que Callan avait vus sur un champ de bataille, aucun ne criait. Cela dit, la plupart des Shuntooks mis hors de combat étaient raides morts. Le soldat avait vendu chèrement sa peau et il n'était pas encore résolu à capituler. Hélas, il avait été submergé par le nombre, une masse grouillante de tueurs qui ne se souciaient pas de leur propre sécurité tant ils étaient avides de s'approprier une âme. L'épée de Richard décalota proprement le crâne d'un demi-humain qui avait tenté de le saisir par un bras pour le jeter à terre à côté du soldat. S'avisant de la présence d'une autre proie, au moins, plusieurs créatures détournèrent la tête de leur festin. Non sans inquiétude, Callan vit que presque tous les demi-humains se concentraient sur Richard, comme si dévorer les autres âmes les intéressait bien moins, à croire qu'ils le reconnaissaient. Avant que leur seigneur soit à son tour submergé par le nombre, les hommes de la première phalange chargèrent les demi-humains et les forcèrent à reculer. Après un instant de confusion, les Shuntooks, méprisant toujours autant le danger, se lancèrent dans une contre-attaque désordonnée. Mais face à l'acier des Darans, leurs dents ne firent pas le poids. Callan eut l'impression de voir une armée de paysans fauchant du blé. Sinon que les épis ici étaient vivants, enfin plus ou moins. Si dévastateurs qu'ils se montrent, les hommes de Richard ne parvinrent pas à égaler la violence de leur seigneur. Débitant des mains, des bras et des têtes, le sourcier coupait des corps en deux aussi facilement qu'il eût tranché une miche de pain. Chacun de ses coups portait, et il paraissait ne jamais devoir se fatiguer. Sachant que le don n'était pas très efficace contre les demi-humains, Nietzsche s'était limité à générer un gigantesque point d'air qui faisait tomber comme des quilles les Shuntooks tentant d'attaquer Callan sur les flancs. Alors qu'ils essayaient de se relever, sonner, des soldats s'empressaient de les tailler en pièces avant qu'ils aient repris leurs esprits. Avec son couteau, l'inquisitrice taillada férocement le visage de tous les demi-humains qui s'approchèrent trop d'elle. Leurs yeux cernés de peinture noire étaient terrifiants, surtout quand ils ouvraient en plus la bouche dévoilant leurs dents acérées. À l'instar de Nietzsche, Zed se battait comme un beau diable pour protéger Callan, Samantha et Irena. Mais cette dernière se dégagea de la prise de sa fille pour courir vers Richard. Elle tendit les mains, à l'évidence pour l'assister en usant de son don, mais rien ne se passa. Bien au contraire. Repérant une nouvelle âme à dévorer, les demi-humains fondirent sur la magicienne imprudente. Richard les massacra avant qu'ils aient pu l'atteindre. Puis il saisit Irena par la taille et la propulsa loin de lui et du danger. Soulagée, Samantha s'accrocha à sa mère, l'empêchant de retourner s'exposer en vain. Au moment où Richard et les autres semblaient avoir pris le contrôle de la situation, sauvant leurs valeureux camarades, des centaines de Shuntuks se déversèrent de la forêt environnante, déboulant dans la clairière comme une horde de loups. Callan soupçonnait depuis un moment qu'il s'agissait d'un piège, dont le soldat était l'appât. Comme tous les prédateurs, les demi-humains, si décérébrés fussent-ils, étaient capables d'imaginer et de mettre en application des stratégies de ce genre. Un peu à l'écart du combat, plusieurs demi-humains se penchaient sur les cadavres de leurs semblables. Les cadavres, pas les blessés. Pourquoi délaissaient-ils ainsi la bataille? Secouant lentement la tête, ils agitaient les bras au-dessus des dépouilles, comme s'il s'agissait d'un rituel. À cause du vacarme, Callan ne put pas entendre les mots qu'il psalmodiait. Alors que l'un d'eux achevait son cérémonial et passait au cadavre suivant, le mort dont il s'occupait s'assit sur le sol, puis se releva d'un bond, comme s'il venait de ressusciter. Vitreux quelques instants plus tôt, ses yeux émettaient désormais une lueur rouge. Dans la semi-pénombre, il était difficile de voir clairement les choses, mais seul un aveugle aurait pu passer à côté des charbons ardents jumeaux qui brillaient sur le visage du Shuntuk. Voyant que le revenant avançait vers elle, Callan écarquilla les yeux. Marchant sur ses entrailles qui se déversaient d'une large plaie en travers de son ventre, le Shuntuk faillit s'étaler et s'arrêta. Baissant les yeux pour voir ce qui le gênait ainsi, il avisa ses propres tripes et n'hésita pas un instant. Tirant à deux mains, il les arracha de sa cavité abdominale et les jeta au loin. Une fois libre de ses mouvements, il se remit en chemin. Du coin de l'œil, Richard l'avait vu venir tout en continuant de tailler en pièces les demi-humains. D'un revers de la lame, il décapita le mort ambulant, puis frappa de nouveau et lui coupa les deux jambes à la hauteur des genoux. S'écroulant, ce qui restait du Shuntuk tendit quand même les bras vers son bourreau, puis il bascula en avant, se reçut sur le ventre et enfonça ses doigts dans la terre pour essayer de ramper vers sa cible. Pendant que des soldats protégeaient ses flancs, Richard trancha net les deux bras de la créature. À l'écart, des demi-humains continuaient à gesticuler au-dessus de leurs morts afin de les ranimer. À ce rythme-là, songea Callan, tuer ses adversaires ne servait à rien puisqu'ils revenaient à la charge quelques instants plus tard. Richard aussi avait vu ce qui se passait. « Par ici !» cria-t-il en tendant son épée. « Repliez-vous tous sur cette butte, devant la muraille de pierre. Pour mieux nous défendre, il nous faut une position impossible à encercler. » En un éclair et sans avoir besoin d'ordre supplémentaire, une partie des soldats se mirent dans la formation dite du fer de lance, une configuration conçue pour défoncer les lignes ennemies. Pas toujours très recommandée comme tactique selon les circonstances de la bataille, cette méthode était parfaitement adaptée à la situation. Se fiant à leur expérience et à leur entraînement, les hommes l'avaient compris d'eux-mêmes. Joignant leurs forces, Zed et Nietzsche propulsèrent sur les Shuntuks un mur de flammes rugissant qui dégagea le chemin au fer de lance. Quelques demi-humains, sans doute ceux qui étaient capables de ranimer les morts, levèrent une main comme pour balayer la menace. Le mur de flammes s'écarta, épargnant une partie des demi-humains. Mais ceux qui se trouvaient sur les flancs eurent moins de chance. Alors qu'ils s'embrasaient, les soldats chargèrent. Pris entre le feu et l'acier, les Shuntuks, miraculeusement épargnés quelques instants plus tôt, n'échappèrent pas plus longtemps à la mort. Après avoir quasiment coupé en deux un guerrier couvert de cendres blanches, Richard se laissa entraîner par la puissance de son coup afin d'approcher du soldat qui se débattait toujours à terre. Se penchant souplement, il le saisit par un bras et l'arracha à la meute qui tentait toujours de le dévorer. Puis il l'aida à se remettre debout, tranchant en même temps des mains qui se tendaient vers la proie qu'on venait de leur voler, l'orienta vers la butte et lui cria de courir. Malgré ses blessures, l'homme semblait en état de gagner la position maintenant qu'il était libre de ses mouvements. Savoir s'il survivrait longtemps était une autre affaire. Richard passa un bras autour de la taille de Callan et l'entraîna avec lui. « Ils ont fait exprès de ne pas le tuer, » dit-il à sa compagne. Ces cris étaient un moyen de nous attirer ici. » L'inquisitrice chercha le regard de son mari. Une telle rage brillait dans ses yeux qui, en d'autres occasions, pouvaient exprimer tant de bonté et de compassion. « J'en étais arrivé à la même conclusion. La butte, il faut l'atteindre avant que le gros de nos ennemis se lance à l'assaut. Tu penses que nous n'avons pas encore tout vu ? J'en suis certain. » Le soldat rescapé étant bien à l'abri au milieu de ses camarades, le fer de lance continua à se frayer un chemin jusqu'à la butte derrière laquelle s'élevait une muraille de pierre. De temps en temps, Zed envoyait un nouveau flot de flammes devant eux, embrasant les pins et illuminant la partie basse des nuages. Retombant en pluie, des aiguilles en feu se consumaient avant même d'être tombées sur le sol. Un étrange et sinistre feu d'artifice pour une bien cruelle fête. Tous les Shuntuk normaux, assez malchanceux pour être touchés par cette averse, se désintégraient encore plus vite que les aiguilles. Kalan sentit que ses cheveux et ses sourcils roussissaient, agressés par l'infernale chaleur. Quel que soit le pouvoir dont disposaient les demi-humains anormaux, les flammes semblaient hélas leur faire moins d'effet qu'aux arbres. Par bonheur, il avait assez plu dernièrement pour que le feu ne se propage pas à toute la forêt, la transformant en un piège mortel pour les chasseurs comme pour leur proie. Si l'incendie infligeait moins de pertes que prévu aux Shuntuk, il les incitait cependant à s'écarter, ce qui était déjà une bonne chose. Mais les demi-humains, conçus par des pouvoirs occultes extérieurs à la grâce, se révélaient bien moins affectés par la magie que de banals mortels. Et comme Richard l'avait prédit, ils continuaient à se déverser dans la clairière. Alors que son mari la serrait contre lui pour la soutenir, Nietzsche plaqua une main dans le dos de Kalan, pour l'aider à avancer, bien sûr, mais surtout pour lui insuffler de la force. Comme il était détestable d'avoir ainsi besoin d'aide. Irena et Samantha marchaient sur les talons des trois jeunes gens.
« Seigneur Hal, lança la jeune magicienne, « que puis-je faire pour aider ?»«
Courir plus vite, » répondit le sorcier. La mère et la fille obéirent. Changeant d'objectif, Zed entreprit de couvrir leurs arrières avec ses lances de flammes. Une magie épuisante, Kalan le savait. Dans très peu de temps, le vieil homme serait à bout de force. Mais les hommes de la première phalange faisaient des merveilles, et avec un peu de chance, l'objectif serait atteint avant que le sorcier soit hors de combat. Une fois sur la position choisie par Richard, le groupe ne devrait plus affronter qu'une seule vague de Shuntuk, et plus quatre en même temps. Ça leur donnerait la possibilité de réduire peu à peu le nombre d'agresseurs, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout, si leur réserve n'était pas inépuisable. Le souffle soudain coupé, Kalan ne comprit pas tout de suite ce qui lui arrivait. Puis, elle sentit des dents s'enfoncer dans sa nuque. Basculant en avant, elle s'écroula, incapable de résister au poids du Shuntuk qui venait de sauter d'un arbre pour lui atterrir sur le dos.